Chers frères et sœurs en la foi, bonjour. Dans mon précédent message, intitulé « Le monde est entré dans la neuvième plaie », je vous ai parlé de ce que le Seigneur m'avait montré il y a 12 ans, précisément en 2008, et que j'ai d'ailleurs écrit en son temps dans un livre « Le rôle de la lumière dans le réveil de l'Église ». Je voudrais vous dire aujourd'hui ce que le Seigneur m'a encore montré à l'époque à propos de la neuvième plaie. Relisons tout d'abord dans le livre de l'Exode, au chapitre 10, les versets 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Vous le savez, cette plaie est l'avant-dernière. La prochaine, c'est la mort dans chaque maison égyptienne. Et dans le processus des jugements divins, nous pouvons remarquer dans l'Écriture que la nuit précède toujours la mort. Lors d'un multiple repas pris avec ses disciples, Jésus a dévoilé la trahison de l'un d'entre eux. Je relis quelques versets dans l'évangile de Jean, donc Jean chapitre 13, les versets 21, 26, 27 et 30. Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. » Nous pourrions passer rapidement sur la petite phrase de Jean qui boucle ce douloureux paragraphe. Mais la voici, cette petite phrase. Dans Jean 13, verset 30, l'Écriture précise « Il était nuit. » Il était nuit. Il est nuit dehors, Judas. Mais il est nuit dans ton cœur. C'est ici ton heure et la puissance des ténèbres, comme le dit Jésus dans Luc 22, 53. Tu t'es laissé dominer par l'amour de l'argent et le vol, au point de livrer ton Seigneur au prix d'un esclave. Il est nuit dans tes pensées, il est nuit dans tes projets. Le processus est en marche, mais tu ne le sais pas encore, ta nuit précède ta mort. Certes, tu vas faire l'acquisition d'un champ avec le salaire du crime, comme on le lit dans Actes chapitre 1er verset 18, mais à quoi bon tout cela? Tu vas mourir. En effet, les événements ne vont pas tourner selon le scénario imaginé par le traître. Judas ira se pendre. Et Pierre, d'ailleurs, y fait allusion, après l'ascension de Christ, en des termes repoussants. On lit cela dans Actes, chapitre 1er, verset 18. « Cet homme est tombé, dit l'apôtre Pierre. Il s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. » Un autre a connu la nuit avant la mort. C'est un jeune homme dont l'histoire nous est rapportée dans le livre des Proverbes. Le témoin oculaire raconte ceci, Proverbes chapitre 7, les versets 6 à 8. « J'étais à la fenêtre de ma maison, écrit-il, et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus, parmi les stupides, je remarquais, parmi les jeunes gens, un garçon, dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Arrivé à ce point du récit, Salomon précise avec force détail, au chapitre 7 des Proverbes, le verset 9, écoutez bien, c'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Examinez bien le texte avec moi. Est-ce que vous voyez la progression du jeune homme dans les ténèbres? Le verset part de la lumière incertaine qui succède immédiatement au coucher du soleil, je veux parler du crépuscule, pour arriver au milieu de la nuit en passant par la soirée. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Ce qui veut dire que le jeune homme avait le temps de réfléchir. Il avait le temps de se ressaisir, mais il a choisi de s'enfoncer dans la nuit du péché. Et la parole de Dieu décrit alors sa misérable aventure. Je lis encore dans le livre des Proverbes, au chapitre 7, un certain nombre de versets que vous retrouverez facilement dans votre lecture personnelle. Je lis, « Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. » Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses, il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. La nuit de ce jeune homme a précédé sa mort. Il était entré, à sa manière, dans ce que j'appelle la neuvième plaie. Considérons maintenant notre cher Seigneur aux heures terribles de la croix. Vers midi, sur le Golgotha, il se passe quelque chose d'inattendu et d'anormal. Lisons le récit de Luc au chapitre 23, les versets 44 et 45. Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit. Comment celui qui a déclaré être la lumière du monde, peut-il vivre ses dernières heures dans d'affreuses ténèbres? Il est notre substitut. Il est la victime expiatoire pour les péchés du monde entier. Il porte notre condamnation. Il subit le châtiment, la colère de Dieu sur l'iniquité. Par conséquent, il entre, lui aussi, dans la neuvième plaie. celle qui précède la mort. En effet, Luc poursuit son dramatique récit en décrivant les derniers instants de notre Sauveur. Luc chapitre 23, verset 46, « Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Pour Jésus-Christ aussi, la nuit a précédé la mort. Lui, la lumière, a été immergé dans les ténèbres pour que nous, nous en soyons délivrés et que nous devenions par lui et en lui des enfants de lumière. Notre génération, je le crois malheureusement profondément, est entrée dans la neuvième plaie. Et Jésus l'avait annoncé. Dans Jean chapitre 9, verset 4, Jésus dit « La nuit vient où personne ne peut travailler ». En parlant de son retour, Jésus fait allusion à la nuit. Matthieu chapitre 24, verset 43 et 44, je lis « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et dans l'une de ses paraboles, où il fait allusion à sa seconde venue, Jésus dit, Matthieu 25, 6, « Au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. » Et ailleurs, Jésus précise, Luc 17, verset 34, « En cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. » La parole de Dieu dit encore, et c'est l'apôtre Paul qui l'écrit dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2, « Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Comment pourrions-nous encore douter de ce fait? Au retour du Seigneur Jésus, au temps de son retour, le monde sera entré dans la neuvième plaie, c'est-à-dire dans une obscurité spirituelle effroyable. La question est celle-ci, cette obscurité spirituelle est-elle à venir? Où sommes-nous déjà entrés, plongés dedans? Cette fameuse nuit qui va précéder la mort. Le jugement de Dieu va s'abattre sur un monde corrompu et impénitent. Le temps est compté. L'humanité va bientôt connaître la dernière plaie, la mort. Maintenant, je voudrais insister sur un point important, c'est que dans cette neuvième plaie, nous remarquons que les ténèbres sont venues de Dieu. Elles sont venues de Dieu. En effet, le livre de l'Exode affirme que c'est l'Éternel qui a dit qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte. Nous l'avons lu dans Exode chapitre 10, verset 21. Et il y eut des ténèbres. Vous savez, Dieu parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et c'est pourquoi j'ai fait précédemment allusion au jugement de Dieu dans mon message précédent. Rappelez-vous les paroles d'Ésaïe au chapitre 45 de son livre, les versets 6 et 7. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Et les paroles qui suivent sont étonnantes. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Eh bien, quand Dieu crée les ténèbres, ce n'est pas pour bénir. Parce que Dieu est lumière, il est le Père des Lumières. Et lorsqu'il crée les ténèbres, il engendre quelque chose d'étranger à sa nature divine. C'est donc un jugement. Vous vous souvenez certainement que la main du Seigneur s'est abattue sur Bar-Jésus, un faux prophète juif auquel l'apôtre Paul a été confronté dans une tournée missionnaire. Eh bien, ce fameux Bar-Jésus fut aveugle et pour un temps, il ne vit pas le soleil. L'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Vous relirez ce récit dans les Actes des Apôtres au chapitre 13, les versets 5 à 12. C'était un jugement de Dieu. Vous vous souviendrez aussi que les deux anges qui sont venus à Sodome ont frappé d'aveuglement les impies qui sont venus entourer la maison de Lot. Et la parole de Dieu nous dit que tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Genèse 19, verset 10. Là encore, c'était un jugement de l'Éternel. Quand les Syriens sont descendus à Dothan avec des chevaux, des chars et une forte troupe, ils ont enveloppé la ville pour prendre le prophète Élisée. Et l'homme de Dieu a adressé alors cette prière à l'Éternel, 2 Rois chapitre 6 verset 18, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et Dieu a exercé ses jugements sur les Syriens. Il les frappa d'aveuglement selon la parole du prophète. Je le crois très profondément, l'humanité est en train de mûrir pour le jugement de Dieu. Elle s'enfonce dans les ténèbres et les nuages de la colère divine sont en train de s'amonceler au-dessus de la terre. Et c'est pourquoi je vous lance cet appel, mes frères et sœurs, sauvons-nous de cette génération perverse. Sortons du milieu d'elle. Séparons-nous, comme nous y exhorte fortement le Seigneur. Je voudrais terminer mon message en vous parlant de quelques caractéristiques des ténèbres de la neuvième plaie. La première caractéristique, c'est l'épaisseur de ces ténèbres. Je vous relis dans Exode 10, versets 21 et 22. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Et il y eut d'épaisses ténèbres. Bien-aimés, ces ténèbres étaient si épaisses qu'on pouvait les toucher. Ce qui veut dire que les Égyptiens n'étaient pas seulement dans les ténèbres, mais ils avaient comme un contact avec elles. Eh bien, il en est ainsi de notre génération. Notre génération touche les ténèbres et beaucoup de supports l'y aident. La télévision, Internet, la littérature, le cinéma, le théâtre, la musique, certains loisirs et tant d'autres choses dont nous pourrions parler. La seconde caractéristique de ces ténèbres de la neuvième plaie, c'est l'isolement et l'individualisme. Et quand je repense à ce que le Seigneur m'a montré il y a 12 ans maintenant, et que je considère les conséquences dans la société mondial qui est en train de vivre la pandémie, le Covid-19, je suis bouleversé de la précision de ce que le Seigneur m'a montré il y a 12 ans en arrière. Parce que oui, je le répète, la seconde caractéristique de cette neuvième plaie, c'est l'isolement et l'individualisme. Ils sont la conséquence immédiate de l'épaisseur de ces ténèbres. Exode 10, 23 nous dit « On ne se voyait pas les uns les autres ». Et dans un autre domaine, c'est le visage de notre société, marqué profondément par l'égoïsme. Lorsque le Saint-Esprit annonce que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, il en donne la raison. Et voici la première. Paul écrit dans 2 Timothée au chapitre 3, les versets 1 et 2, « Car les hommes seront égoïstes ». Mais on pourrait traduire également « les hommes seront amoureux d'eux-mêmes ». Amoureux d'eux-mêmes. Seuls les aveugles spirituels ne peuvent voir la réalité en face. Parce que, oui, nous sommes entrés dans la neuvième plaie. Les gens ne se voient plus les uns les autres. Et c'est le paradoxe d'une société submergés par les moyens de communication. J'entends parler partout de connexion, il faut être connecté, il est connecté, elle est super connectée. Mais en réalité, les gens ne se voient plus les uns les autres. Si on aperçoit l'autre, c'est pour le dévorer. Parce que l'autre est un concurrent, l'autre est un adversaire, l'autre est une personne à battre ou à abattre. Il est peut-être un objet de convoitise avec lequel on s'apprête à satisfaire des passions égoïstes. Est-ce que vous ne faites pas ce constat? Ce que je dis est vrai sur le plan professionnel, sur le plan sportif, social et même familial. Or, le second commandement du Seigneur dans sa parole consiste précisément à aimer le prochain comme on s'aime soi-même. Dans la lumière de Dieu, on voit le prochain et on l'aime. Mais dans les ténèbres, on ne voit plus les autres. Et la troisième caractéristique des ténèbres de la neuvième plaie, c'est l'immobilisme. La Bible déclare « Personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. » Exode 10, 23. « Chacun fut rendu à l'impuissance. » À ce moment-là, en Égypte, personne ne put faire quoi que ce soit pour changer la situation. Aucun mouvement, aucune solution, aucune initiative n'était possible. C'était le prélude angoissant de ce qui allait survenir de plus terrible encore. Mais à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, personne ne s'en doutait. Et si vous réfléchissez à ce que dit l'Écriture sur cette troisième caractéristique de cette plaie qui est l'immobilisme, si vous réfléchissez bien, la vie familiale, même dans ce qu'elle avait de plus ordinaire, de plus légitime, était stoppée. Réfléchissez bien à ce qui est survenu à ce moment-là dans la société, dans la civilisation égyptienne. La vie professionnelle, les échanges commerciaux, les entreprises humaines, les projets, les relations, les investissements, tout était subitement plongé dans l'immobilisme total. Que se passe-t-il comme conséquence avec le Covid-19? Le monde a été plongé, en partie du moins, dans l'immobilisme. Quand on revient à ce que la parole de Dieu nous dit concernant cette neuvième plaie pour l'Égypte, ces ténèbres qui ont engendré l'immobilisme sont venus de par la volonté de Dieu. La main de Dieu venait d'immobiliser une machine aussi puissante que l'était l'Égypte, et toute l'Égypte a été stoppée en un instant de par la volonté de Dieu. La main puissante de Dieu est venue secouer la planète avec cette pandémie. Dieu est venu montrer aux nations du monde entier leur fragilité. La main de Dieu a plongé en quelques courts jours le monde entier dans l'immobilisme. Dieu reste le maître absolu de l'univers. Il reste celui qui domine sur les nations. Et je voudrais vous dire à vous, amis chrétiens, regardez maintenant notre monde. Examinez bien ce qui se passe sous vos yeux. On parle d'un apaisement dans la circulation du Covid-19 et on ne peut que s'en réjouir. Mais les conséquences économiques, les bilans économiques à venir vont être catastrophiques. Je pense que le monde a été secoué dans ses fondements. Et il faut que nous examinions bien ce qui se passe sous nos yeux. La neuvième plaie, je le crois, s'est abattue sur l'humanité. Alors oui, je le répète, il est temps pour nous chrétiens de nous séparer de tout ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Il est temps de nous sauver de cette génération perverse. Il est temps de ne pas toucher à ce qui est impur et de nous préparer pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.